Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Il y a 170 ans, Victor Schœlcher fait abolir l'esclavage dans les colonies françaises. Journée du souvenir ce vendredi, l'occasion pour de nombreux pays européens de se pencher sur ce passé honteux. Le Portugal, lui, n'a aboli l'esclavage qu'en 1869, 60 ans après les Britanniques, 21 ans après les Français. Il faut dire que l'Empire lusitanien ne s'est écroulé qu'en 1974. Et c'est tout récemment que la chape de plomb sur cette histoire s'est soulevée. Sous l'impulsion d'associations de luso-africains et d'intellectuels, un mémorial à l'esclavagisme doit voir le jour en 2019. Le projet est inscrit dans le budget de la mairie de Lisbonne, un véritable changement de perspective sur la condition africaine. Et c'est le reportage de Marilyn Darcy.
Voilà la fontaine d'El Rey. C'était la fontaine où chaque catégorie de la population avait son bec d'accès à l'eau. Celui des femmes, celui des hommes et enfin celui des esclaves. Les gens venaient chercher de l'eau, mais ils devaient respecter cette ségrégation.
Joselino Neves organise des visites guidées de Lisbonne l'Africaine pour le compte de son association culturelle Batoto Yetu. Des visites originales puisqu'il s'agit de montrer aux visiteurs les lieux du trafic des esclaves dans la ville. Comme cette fontaine du roi, érigée en 1487 et qui répartissait les humains en 9 catégories, les esclaves hommes puis femmes étant les derniers à accéder à l'eau. Tout un pan de l'histoire portugaise a ainsi été nié, celle des 6 millions d'esclaves qui ont transité dans le pays au temps des découvertes et de l'expansion de l'Empire portugais à partir du XVe siècle. Une histoire passée sous silence, même lorsqu'il s'agit de rendre hommage à l'abolitionniste portugais Sada Bandeira. Joselino Neves.
Au pied de la statue de Sada Bandeira, il y a ce personnage, Fernanda do Valle, connu comme Fernanda la Noire, qui était du Cap-Vert à l'époque, possession de l'Empire. Elle montre à son fils la statue du marquis et semble lui dire « C'est cet homme qui nous a libérés ». C'est l'homme qui a aboli l'esclavage dans tout l'Empire. Mais seuls les fers brisés qu'elle porte au pied nous indiquent que c'est une esclave libérée, car aucun trait de sa physionomie n'est africain. Les Noirs n'étaient jamais représentés comme ça.
La négation de la présence africaine est immense dans l'histoire portugaise. Mais les choses changent et le projet de mémorial de l'esclavage en cours à Lisbonne vient bousculer le discours dominant. Ce mémorial qui verra le jour grâce aux Lisboètes associés au budget participatif de la ville. Le résultat d'un travail acharné de l'association Jazz et de sa dirigeante Béatrice Gomes-Dias.
Nous avons pensé que si nous arrivions à mobiliser sur ce thème et obtenir un vote significatif, alors il n'y aurait plus qu'à construire le mémorial. Car nous sommes partis du principe que les autorités portugaises n'allaient jamais prendre cette initiative. On n'observait aucun signe en ce sens.
A construção de um mural deste tipo.
L'association et ceux qui la soutiennent ont remporté une belle victoire. L'objectif de Béatrice Gomes-Dias est de rétablir la vérité historique et de diminuer le racisme latent au Portugal.
Le mémorial a trois objectifs. D'abord, reconnaître le rôle du Portugal dans le commerce des esclaves. Ensuite, aborder le thème de la résistance des esclaves, car dans l'esprit de nombreuses personnes, la colonisation n'a rencontré que la passivité, ce qui est faux. Et enfin, réaliser un travail pédagogique sur ce qui se passe aujourd'hui. Il s'agit d'informer pour que le mémorial puisse contribuer à notre vie collective.
Para a nossa vida coletiva.
Réhabiliter les Noirs dans la construction de l'Empire lusitanien, en finir avec l'image volontairement adoucie du colonisateur qui pourtant a été l'un des précurseurs du commerce triangulaire entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Sud, c'est une démarche essentielle. Car pour l'historienne Isabel Castro-Henriques, spécialiste de l'histoire africaine, la discrimination envers les Africains a longtemps servi les besoins du colonisateur.
Il y a toujours eu un regard négatif, discriminatoire, basé sur des préjugés vis-à-vis des Africains. Mais cela s'est aggravé avec les guerres coloniales à partir de 1961. Montrer, démontrer de manière soi-disant scientifique que les Noirs étaient des primitifs, des sauvages, des anthropophages et même de violents terroristes. C'était bien évidemment la meilleure manière de justifier la guerre, de justifier la domination coloniale, revendiquée comme un système système destiné à les civiliser.
Visto que esse sistema permitia precisamente civilizá-los.
Les guerres coloniales n'ont pris fin qu'en 1974, un court laps de temps à l'échelle de l'histoire dont la réécriture ne fait que commencer. Pour Béatrice Gomez-Diaz de l'association Jazz, le mémorial permettra aussi de lutter contre le racisme.
Para podermos perceber o racismo que existe em Portugal hoje.
Nous devons comprendre le phénomène du racisme actuel et les conséquences de ce racisme dans la vie de milliers de descendants luso-africains et d'immigrés africains. Et pour cela, il faut connaître l'histoire du Portugal, il faut remonter à l'époque de l'esclavage, étudier l'empire colonial et sa narration, comprendre aussi le racisme institutionnel pour le dépasser.
Formas de ultrapassar o racismo.
Le mémorial, avec des panneaux descriptifs sur le lieu de mémoire de l'esclavage, devrait voir le jour en 2019, mais il divise. Le projet se heurte notamment à ceux qui veulent construire un musée des grandes découvertes où l'esclavage occuperait au mieux une salle. Pour les porteurs du projet du mémorial, ce serait à nouveau lié à l'histoire.
Autre monument, il s'agit plutôt d'une statue inaugurée cette fois il y a quelques semaines devant l'ancien entrepôt danois des Antilles dans le port de Copenhague. Car on le sait moins, mais le Danemark a pratiqué l'esclavage dans quelques colonies des Caraïbes, colonies qu'elle a vendues aux États-Unis en 1917. Un passé dont on ne parle pas volontiers dans le royaume scandinave, mais dont la statue vient rappeler l'existence. Le monument a été réalisé par deux artistes, Jeanette Ehlers et Lavone Bell, originaires des îles Vierges, et leur réalisation I Am Queen Mary, en référence à la rebelle Mary Thomas, est exceptionnelle à plus d'un titre. Anne-Françoise Hiver.
Il s'agit en effet du premier monument érigé dans la capitale danoise qui fasse référence au passé colonial du royaume. Mais c'est aussi la première statue d'une femme noire exposée dans le pays. Son prénom Mary Thomas, née en 1842 à Antigua, une ouvrière passée à la postérité comme l'une des leaders de la révolte du Fireburn à Sainte-Croix dans les îles Vierges en octobre 1878. Dans ces colonies danoises, l'esclavage a été aboli 30 ans plus tôt, sans pour autant que les conditions de vie et de travail des ouvriers ne s'améliore. En 1878, ils se révoltent, mettent le feu à une cinquantaine de plantations. Mary Thomas, Axeline Elizabeth Salomon et Matilda McBean en prennent la tête. Elles deviendront les trois reines rebelles, arrêtées et condamnées à la prison, envoyées au Danemark en 1882 avant d'être graciées des années plus tard. La statue érigée à Copenhague fait 7 mètres de haut. Elle mélange les visages des deux artistes et représente Mary Thomas, une torche dans une main, une machine dans l'autre, les armes des anciens esclaves, assises dans un fauteuil pan, une référence à un célèbre portrait du fondateur des Black Panthers. Autre symbole, à ses côtés trône une reproduction du David de Michel-Ange, chef d'œuvre de la Renaissance, une période faste aussi pour la colonisation. Derrière les deux statues, dans le grand bâtiment de briques rouges, la collection royale de moulage, 2000 reproductions en plâtre, toutes d'un blanc immaculé. Mais ceux qui souhaitent voir Queen Mary devront se dépêcher, réalisée en polymousse, un thermoplastique peint en noir. La statue risque de s'abîmer vite. Les deux artistes ont d'ailleurs lancé une collecte. Elles espèrent rassembler suffisamment de fonds pour pouvoir la couler dans le bronze.
C'est un autre lieu de mémoire qui rappelle que l'esclavage, il y en a bien eu sur le continent européen. Esclaves en Roumanie du XIVe jusqu'au XIXe siècle, les Roms n'ont guère eu la vie facile dans ce pays. Un musée dédié à leur culture et à leur histoire a été créé il y a 5 ans à Bucarest, Benjamin Ribou.
Faire connaître la communauté rome et son histoire, tenter d'apaiser 700 ans de coexistence compliquée, c'est le but du musée en grande banlieue de la capitale Bucarest. Un musée très peu soutenu, comme l'explique Valentine Negoy, qui y travaille.
Il est situé dans le quartier de Giulești, où se trouve la plus importante communauté rome de Bucarest, dans un quartier défavorisé. Juste à côté se trouve un monastère. Or, durant l'époque médiévale, les Roms en étaient les esclaves.
Doté de produits artisanaux, de tableaux, de sculptures, de charrettes, mais aussi d'une bibliothèque, le musée essaie de rendre compte de l'histoire de la minorité rome de Roumanie, un peuple marginalisé, comme l'explique Valentine, lui qui effectue un doctorat sur la déportation et l'extermination de dizaines de milliers d'entre eux durant la Seconde Guerre mondiale. Du Moyen-Âge aux premières révoltes, en passant par les déportations et l'assimilation forcée durant le communisme, l'important pour lui est d'enfin faire connaître cette histoire.
Dans les manuels d'histoire, on ne parle même pas de la déportation ou de l'Holocauste des Roms, tout comme de cette période d'esclavage, la plus longue de l'histoire. Pour les populations afro-américaines, cela a duré 200 ans, alors que pour les Roms de Roumanie, il s'agit de 500 ans. Même les Roms ne connaissent pas cette histoire. On n'en parle jamais à l'école. C'est un tabou. Les explications sont multiples. Racisme, ignorance et manque d'intérêt aussi.
L'exclusion et la pauvreté sont les conséquences directes de la méconnaissance de l'histoire des Roms de Roumanie. Un grand nombre d'entre eux préfèrent d'ailleurs ne pas se reconnaître comme Roms. Les derniers recensements font état seulement de 650 000 Roms dans le pays. Il serait en fait au moins 2 millions.
Bonjour Daniel Renon.
Bonjour Catherine.
Alors cette semaine, c'est avec vous que nous allons détailler les articles que Courrier International a sélectionnés dans la presse européenne. Et on commence par votre une, le conflit Est-Ouest et le grand retour des espions.
Oui, nous revenons sur l'affaire Skripal, mais pour approfondir le sujet et mieux comprendre cette guerre du renseignement entre Moscou, Londres et Washington, qui génère la plus grave crise politique entre l'Est et l'Ouest depuis la guerre froide. Vous vous souvenez, Sergueï Skripal, un ex-agent double russe, a été retrouvé le 4 mars inanimé sur un banc de Salisbury. Londres a immédiatement considéré cette tentative d'assassinat comme une attaque chimique contre son territoire et expulsé plus d'une vingtaine de diplomates russes, suivis par les États-Unis et une partie de l'Europe. Faute de preuves, Moscou y a vu une provocation de l'Occident et a expulsé à son tour. L'affaire s'est emballée.
Alors les points de vue divergent et la tension monte entre les Occidentaux et la Russie. Votre dossier apporte-t-il de nouvelles précisions ?
En tout cas, Catherine, notre dossier prend de la hauteur et apporte de nouveaux éclairages. Il remonte bien au-delà de l'affaire Skripal pour sortir du fantasme et de la paranoïa. Par exemple, le site d'information russe Inosmi livre des réflexions intéressantes avec une passionnante plongée dans l'histoire et la géopolitique, dans ce qu'il appelle l'interminable saga d'espionnage entre l'Angleterre et la Russie, dont l'affaire Skripal n'est peut-être qu'un nouvel épisode. Avec le New York Times, on reste dans le temps présent. La NSA et CIA se sont fait dérober des cyberarmes qui visaient à infiltrer les réseaux informatiques de la Russie. Une affaire qui s'est passée en 2007 et qui nous donne une atmosphère à la John le Carré. Enfin, le dossier se clôt avec un article du quotidien allemand Süddeutsche Zeitung qui s'attache à l'espion comme source d'inspiration, notamment dans les films. Un texte plein de références culturelles qui va de James Bond à Red Sparrow, actuellement sur les écrans en France, en passant par la série d'espionnage The Americans de Joe Weisberg. Les espions sont au cœur de l'actualité, Catherine.
Alors, autre sujet, Daniel, qui nous emmène à Malte, l'île aux affaires. C'est là que la journaliste Daphne Caruana Galizia a été tuée dans l'explosion de sa voiture le 16 octobre 2017. Alors, le projet Daphne, c'est un réseau international de journalistes qui vient pointer les dysfonctionnements dans l'enquête sur sa mort.
Oui, après son assassinat, le chef du gouvernement avait promis une récompense à qui permettrait de faire avancer l'enquête. Trois personnes ont été arrêtées, mais les commanditaires du meurtre courent toujours. La revue New Statesman de Londres est revenue sur place 6 mois plus tard à La Valette, la capitale de Malte, et d'ailleurs aussi capitale de la culture européenne 2018, pour faire le point sur l'état du pays. Et son constat, c'est business as usual. Malte, qui est le plus petit état membre de l'Union européenne, est véritablement, dans tous les sens du terme, l'île aux affaires. Elle ne se laisse pas aisément déstabilisé, les scandales surgissent, les affaires continuent.
Alors enfin, Daniel, on termine avec la pagaille politique en Italie. Après les élections législatives du 4 mars, le pays se cherche encore un nouveau gouvernement.
Oui, c'est le feuilleton italien depuis près de 2 mois, ce qui nous donne matière à une rubrique qu'on a titrée « Pagaille en Italie ». Il y a peu de progrès, pour tout dire, dans la formation du gouvernement. On se souvient, les élections de mars ont sanctionné Matteo Renzi, mais elles n'ont pas dégagé de majorité de gouvernement. Les électeurs ont placé en tête le mouvement 5 étoiles, qui domine au sud, et la coalition des droites, emmenée par la Ligue, essentiellement au nord. Un progrès a été fait le 24 mars. Les deux camps ont réussi à s'entendre pour se répartir la présidence des chambres. Mais depuis, la situation stagne. Selon la Stampa, le quotidien italien, le président de la République, qui mène les pourparlers avec les formations politiques pour constituer une majorité, commence à perdre patience et il a délégué le travail. Il a d'abord confié une mission de 2 jours à la présidente du Sénat pour sonder les chances d'un accord entre la coalition des droites et le mouvement 5 étoiles. Échec. Il a ensuite confié une autre mission au président de la Chambre pour sonder les chances d'un accord entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate de centre-gauche. Mais pour l'instant, on ne voit rien venir. Il faut attendre le mois de mai pour en savoir un peu plus sur la formation du gouvernement italien. S'il y aura un retournement de situation ou un retour aux urnes, on ne peut pas le dire aujourd'hui.
Merci Daniel Renon. Tous ces articles sont à lire évidemment dans Courrier International cette semaine. À bientôt Daniel.
Au revoir.
Musique. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors, on termine la semaine avec une joyeuse sarabande barbare.
Ne vous laissez pas intimider par le nom de ce trio atypique, violon barbare. Il réunit un bulgare, un mongol et un français autour d'une musique qui conjugue sonorité traditionnelle et énergie presque rock. Leur 3e album sort aujourd'hui et s'intitule Wolf's Cry. On y entend la gadulka, ce violon à 14 cordes originaire de Bulgarie, le morinkour, ou vielle à tête de cheval propre à la musique mongole, et puis des percussions à foison. On y entend aussi les voix des 3 musiciens qui colorent chacune différemment ces chansons partagées entre compositions originales et adaptations de morceaux traditionnels comme ce Privniknal, Si et Nicolas, issu du folklore bulgare.
Pour les violons barbares, et sur ces notes qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine à la réalisation Richard Rifono. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr et sur notre page Facebook.